Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 17 janvier 1992 à Saint-Jodard.
Une question. Peut-on dire que si l'œuvre est energeia dans l'expérience du travail, le travail lui-même est-il entelecheia? C'est sûr que le travail est acte. Il est l'analogue, si vous voulez, de l'amour par rapport à la vie. C'est ça que les psychologues disent que le travail rééquilibre. Et que tant qu'un homme travaille sérieusement, un vrai travail, qui implique toute une application, qui implique qu'on soit tout entier à ce qu'on fait, nous équilibre, ça nous active. Sa langage moderne pour thématiser. l'aspect formel de la finalité dans la cause exemplaire pour thématiser l'aspect de forme intentionnelle, intelligible dans le point de vue de Lousia. Le dépassement de la forme permet de saisir ce qu'est l'être. Lousia, le principe de toute détermination et le dépassement de la cause exemplaire dans l'efficacité permet de saisir la finalité. Ceci, historiquement, serait du reste très intéressant de voir comment tous ceux qui n'ont pas dépassé la cause exemplaire, et aujourd'hui, ils sont tous dedans. Alors, on aboutit aux valeurs. Il ne faut pas s'opposer tout le temps aux valeurs. Quand quelqu'un parle des valeurs, on comprend très bien. Réclamer à tout le monde de faire d'Aristote. C'est pas un péché mortel de ne pas faire d'Aristote pour un bon chrétien. Si nous arrivons à découvrir ce que c'est qu'Aristote, c'est très vrai. Pour comprendre saint Thomas, il faut découvrir Aristote. Ça, je crois que c'est impossible autrement. Mais c'est difficile. Alors, on a les deux dépassements. C'est l'interprétation que je donne d'Aristote, hein, parce qu'Aristote ne le dit pas comme ça. Et si je suis attentif à l'invention des deux mots qu'il a fait, dans un climat platonicien, quelqu'un qui a été 20 ans à l'école de Platon, vous voyez, soyez 20 ans à l'école d'Hegel, et voyez comment vous pouvez en sortir. Il en est sorti très vite, je crois. C'est-à-dire très vite, il a senti qu'il ne pouvait pas être platonicien. Comme très vite, on sentirait qu'on ne peut pas être hegelien. Mais il faut arriver à saisir la confusion qui nous empêche d'aller plus loin. Et je crois que sans les mêmes confusions, des confusions analogues, primat de la dialectique sur l'analogie. Et le primat de la dialectique sur l'analogie, c'est toujours ce point de vue de la forme. Du primat de la forme. Ou du côté de l'efficacité, comme dans Hegel. Et l'efficacité est très liée à la cause exemplaire. Ce qu'on trouve alors dans Platon. Et c'est ou efficacité, ou l'aspect formel, mais les deux unis. Alors dans la confusion de l'efficacité et de la causalité formelle, il y a ou un primat de l'efficacité de la vie, ou un primat d'un cause exemplaire, l'aspect plus artistique, chez Platon. Je continue. Cette petite enquête, vous voyez, c'est une petite enquête, simplement, pour bien voir que la présence de l'acte est là, dans toutes les parties de la philosophie. Et c'est pour ça que cette dernière découverte de l'être en acte que nous essayons de faire éclaire toutes les parties de la philosophie. C'est pas seulement quelque chose de particulier. dans l'expérience radicale, fondamentale que j'ai de ce qui est mu. D'une certaine façon, toutes mes expériences humaines impliquent une découverte de ce qui est mu. Je n'atteins dans mon expérience que du contingent. Je n'ai jamais expérimenté quelque chose qui est au-dessus du devenir de ce qui est mu. Mais c'est intéressant parce que ça fait comprendre comment en physique on arrive à la relativité absolue. Et c'est vrai, et c'est tout le problème de Kant. Parce que la physique, pour lui, la science physique joue un rôle très très grand. Chez Descartes, c'est les mathématiques. Et on peut dire que chez Kant, c'est la physique. La difficulté de dépasser ces deux grandes formes de connaissances scientifiques, les mathématiques et la physique. Et c'est vrai que toutes les expériences que j'ai sur la Terre, c'est toujours des expériences de quelque chose qui est mu. Et si ce quelque chose qui est mu est mu, il change, il est contingent. Alors, quel est l'acte dans ce qui est mu? Voilà la grosse question. Est-ce que ce qui est mu est uniquement des étangs à la manière du regard de Heidegger? Heidegger a très bien saisi que toutes mes expériences et que toute la science moderne, sauf les mathématiques, mais Heidegger ne parle pas beaucoup des mathématiques. C'est curieux. C'est la différence avec Platon. Il regarde sur les étangs. Et ces étangs n'impliquent pas l'être, n'impliquent pas l'acte. Il y a une séparation pour lui entre l'être, la saisie de l'être, qui ne peut se faire que dans un domaine purement intellectuel. L'être apparaît dans la pensée. Et l'être n'apparaît que dans la pensée. Je pense l'être. Penser l'être. Toutes mes expériences physiques, toutes mes expériences sensibles, toutes mes expériences humaines sont au niveau des étangs. Ce qui est parfaitement vrai du côté descriptif. Du côté descriptif, c'est bien évident que tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que je touche implique toujours le mouvement. Dans la réalité physique, vous ne saisissez que ce qui est mu. Alors, je me pose la question, est-ce que dans la réalité physique, je saisis l'acte, l'entelecheia? Pour Aristote, c'est sûr qu'on saisit l'acte dans la réalité physique. Autrement, il n'y aurait pas de philosophie de la nature. Si le monde physique, le monde sensible que j'expérimente, je n'expérimente que position Heidegger, donc c'est tout proche de nous. Hein. Pour ça que la référence à Heidegger est intéressante, parce que elle nous montre que le dernier grand philosophe demeure dans cet aspect descriptif du monde physique et dans cet aspect de la science du monde physique. Aristote montre qu'on peut dépasser Héraclite grâce au jugement d'existence de ceux qui émuent. Je regarde ceux qui émuent. Je ne regarde pas seulement le mouvement. Vous voyez, ramener toute mon expérience de la réalité physique à l'étang, c'est hypostasier le devenir. Hypostasier, comprenez ce que ça veut dire ? Formaliser le devenir. L'imagination me donne une expérience étonnante du vécu du devenir. Arrêtez votre imagination. Là, vous verrez ce que c'est. Il y a le drame dans l'imagination. Quand vous êtes dans l'imaginaire, c'est toujours dramatique. Parce que vous oubliez toujours quelque chose. Vous n'avez jamais tout saisi. Et ça passe, ça passe. Alors c'est dramatique. Le drame humain, il est dans l'imaginaire. Et l'imaginaire me fait l'expérience du vécu. Et l'expérience du vécu de ce qui est mu. Non. Du devenir. Pas de ce qui est mu, mais du devenir. C'est pour ça que je dis, on hypostasie le devenir. On formalise le devenir. Et à ce moment-là, on ramène toute expérience physique au devenir, au mouvement. Aristote, lui, saisit ce qui est mu. Alors, dans ce qui est mu, on saisit quelque chose qui est au-delà du devenir. Puisqu'il y a ce qui ému. C'est cela qui fait comprendre comment je peux échapper au pan d'areille. Tout est mouvement, tout est mu, tout coule. Parce que il y a le mobile qui est mu. Et à ce moment-là, je comprends que mon expérience philosophique regarde ce qui est mu et non pas le mouvement. Et quand je regarde ce qui est mu, je peux saisir alors ce qu'on appelle la phusis, la nature. Et je saisis tout de suite, analogiquement, par rapport à ma connaissance de philosophie humaine, la distinction de nature, forme et nature, matière. En philosophie de l'art, en philosophie de l'activité du travail, en philosophie de l'œuvre, je saisis la distinction entre la forme et la matière. Le cercle d'airain exemple d'Aristote, le cercle de bois, le cercle de matière plastique aujourd'hui. Je saisis la différence entre le cercle qui est dans le bois, le cercle qui est en matière plastique, le cercle qui est de fer et d'acier. Donc je distingue le cercle, la forme cercle, et la manière dont le cercle existe. Il existe dans le bois, il existe dans le fer. Donc il y a la distinction matière et forme. Je transpose analogiquement cette distinction matière et forme dans ma connaissance spéculative du donné brutal avant le travail humain, avant que l'homme le transforme, avant que l'homme n'en fasse son œuvre, avant que le menuisier travaille le bois est bois. Et je peux le palper, le toucher, le sentir et le voir. Il est déjà travaillé quand il y a une tranche de bois. À l'état brutal, c'est le tronc d'arbre. C'est le bois qui ne vit plus. Parce que l'arbre vit. Tandis que quand vous l'avez coupé, que vous l'avez exprès attendu qu'il soit un bon cadavre, vous pouvez le faire passer à l'usine à ce moment-là. Et vous avez des tranches de bois, et puis après vous pouvez le travailler. Donc il y a un premier travail, c'est le travail de l'usine, les tranches de bois. Mais il y a une matière brutale, première. Et c'est ça qui intéresse le philosophe avant le passage du travail de l'homme. Il y a la matière. Il y a le respect de la matière. Et il y a qu'est-ce que c'est que la matière ? La philosophie de la nature, c'est rechercher ce qu'est le donné avant le travail de l'homme. Le donné brutal avant le travail de l'homme. Que ce donné provienne d'un vivant, que ce donné ne provienne pas d'un vivant, peu importe, c'est ce donné que l'homme pourra travailler, que l'homme pourra transformer. Dans ce donné, je découvre l'expérience de ce qui est mu. À la différence du vivant, ce qui se meut n'est qu'à penser au bois. Le bois vivant, il se meut, dit Carrieux. Que l'arbre pousse tout droit. C'est extraordinaire, ça. Et quand il meurt, il ne pousse plus tout droit. Il dégringole et il tombe. C'est ça, tomber. Tomber, c'est passer de la vie à l'inertie, à ce qui est mu. On en fait l'expérience de temps en temps. Vous montez l'escalier. C'est le vivant qui monte l'escalier. Puis tout d'un coup, il tombe. C'est le non-vivant. Dégringole. Donc, il y a ce qui est mu et ce qui se meut. Et c'était des expériences très simples que nous faisons tout le temps, auxquelles il faut revenir pour voir ce désir de la connaissance de quelque chose qui est antérieur au travail humain. L'âme vivant est un donné avant le travail humain. Évidemment, le travail humain sera quand même là, puisqu'on pourra tailler cet arbre. Mais tailler l'arbre, c'est pour qu'il pousse davantage. C'est pour qu'il pousse plus droit. C'est pour qu'il soit un plus grand vivant. C'est pour ça que je taille. Tandis que l'abattre, là, c'est pas du tout pour l'aider à être un grand vivant. C'est pour qu'il dégringole. Et puis après, il va sécher. Il y a cette double expérience de ce qui est mu et de ce qui se meut. Et j'analyse en interrogeant, puisque toute analyse se fait par l'interrogation. c'est que cette matière inerte? Qu'est-ce que c'est que cette matière non vivante, antérieure au travail? J'ai une connaissance de la matière pour elle-même. Et je n'ai pas seulement la connaissance de la matière en tant que je la transforme. L'erreur du marxisme, l'erreur fondamentale du marxisme, c'est de voir que la matière n'est connaissable que par sa transformation. C'est seulement par le travail que je connais la matière. Non, il y a une connaissance spéculative de la matière antérieure au travail. Et c'est là où je découvre la nature forme, la nature matière. Et découvrant la nature forme et la nature matière, je découvre à ce moment-là que cette réalité physique est toujours mue. Et cette réalité physique, toujours mue, le mouvement est son entelechia. Un état extrêmement imparfait, puisque il est dans la succession constante. Ce qui est mu est en acte uniquement dans le présent, au moment même où j'expérimente. Le passé, le futur n'est plus en acte. Le monde physique, c'est ça qui est extraordinaire, n'est en acte que dans l'instant présent. Il a été mu. Il se remue. Mais il n'est pas mu. Et l'acte est uniquement dans l'instant présent. Mais comme c'est fugitif, cette réalité du monde physique, on comprend très bien. Bien c'est fugitif, alors la question se pose. Cet acte du monde physique est-il la fin du monde physique? Étant donné ce caractère si évanescent de l'acte dans le monde physique, si fugitif, je comprends que mon expérience de ce qui est mu se fait toujours par une certaine détermination. La nature matière n'est pas un acte. La nature matière prise au sens le plus précis. Donc déjà, fruit de l'analyse. C'est par la forme que cette réalité est mue. C'est pour ça que toutes les réalités physiques ont toutes un mouvement particulier. Le mouvement de la terre n'est pas celui de l'air, n'est pas celui du feu. Et l'acte de la matière, l'acte de l'air, l'acte du feu, sont distinctes. Et par là, je peux découvrir qu'il y a une certaine finalité dans la nature. Et cette finalité, c'est justement grâce à cet acte la forme est actuée et qu'elle connaît une certaine finalité qui demeure à l'intérieur de la nature. C'est pour ça que je pourrais parler de la nature fin, qui est cette détermination de la nature forme, mais actuée par le mouvement. Au fond, la finalité du monde physique, c'est le mouvement. C'est d'être mu. Il n'y a pas d'autre finalité que d'être mu. C'est une finalité qui ne permet pas et qui ne fait pas découvrir la transcendance. C'est une finalité, j'allais dire, qui est tellement conditionnée par la matière qu'elle ne peut pas s'en séparer. Elle est engluée par la matière. Et donc, je distingue cet instant particulier de ce qui est mu, de sa forme et de sa matière. Mais je reconnais que cet acte est toujours dans la puissance et demeure entièrement conditionné par la puissance. Et tellement conditionné par la puissance que cet acte est saisi de manière fragmentaire dans l'instant présent. Il y avait question critique très intéressante à se poser. Si le monde physique n'était qu'un monde physique, c'est-à-dire si l'homme était né dans la Lune, une pure hypothèse impossible, puisqu'il n'y a pas de vie dans la Lune, donc l'homme ne peut pas y naître. Il n'y aurait pas de génération spontanée dans la Lune. Il n'y a pas de vie. Mais si par impossible, l'homme n'avait aucune expérience de notre Terre et aurait été transposé dans la Lune, pourrait-il découvrir la finalité de la nature? Est-ce que la nature physique, prise purement en elle-même, permettrait-elle de nous faire découvrir ce qu'est la fin? Ou est-ce que je projette sur la nature physique la finalité que j'ai atteint grâce à mon travail, philosophie de l'art, grâce à l'amour d'amitié? Je dis le fondement de la finalité, il est dans la nature. Vous voyez le problème? Autrement dit, quand Aristote pose la nature fin, est-ce que cette finalité est vraiment propre à la nature physique, ou est-ce que c'est une projection sur ce monde matériel? C'est pas moi qui invente cette question-là, hein. Elle existe, et la plupart des commentateurs d'Aristote disent que c'est une projection de la connaissance artistique, de la philosophie, de l'art sur la nature. Et donc, la finalité dans la nature est purement métaphorique. Elle est extrinsèque. C'est intéressant comme question parce que vous comprenez très bien que si la finalité est projetée sur le monde physique, je ne découvrirai jamais la finalité propre au monde physique. Le monde physique est purement matériel et livré à la connaissance scientifique. Seul le savant de connaissance physique peut parler vraiment de la nature. Le philosophe, il en parle d'une façon purement métaphorique. Autrement dit, c'est tout le gros problème constant d'aujourd'hui. Faut-il vraiment parler encore d'une philosophie de la matière? Ou doit-on tout simplement, comme Heidegger, dire ce sont des étangs que seule la science connaît, grâce aux mathématiques? Il faut envelopper la nature physique de ce regard mathématique pour pouvoir en découvrir l'intelligibilité. Mais l'intelligibilité ne provient pas de la nature matière, de ce monde physique. C'est une intelligibilité que l'homme mathématicien projette pour voir si vraiment il y a une réponse ou pas de réponse. Vous voyez le noumen de Kant, c'est ça. Le monde physique est inconnaissable, complètement. ça. C'est le domaine. Je vois très bien, on voit très bien la position de Kant. Elle est assez vraisemblable. Je ne dis pas qu'elle est vraie, je dis qu'elle est vraisemblable. Et au fond, Heidegger garde la position de Kant par rapport au monde physique, par rapport au corps humain, dans la mesure où il est physique, parce que dans le corps humain, je peux distinguer l'aspect physique et l'aspect vital grâce à la mort. Je vois que il y a des petits résidus, puisque quand je meurs, je ne suis pas annihilé. J'en ai pas l'expérience, mais j'ai l'expérience sur les autres. On parle d'un cadavre. Et le cadavre, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps qui a été vivant. Je ne parle pas d'un cadavre pour une réalité physique. Quand je vois une montagne, je ne dis pas quel beau cadavre. Je dis, c'est une montagne, un monde physique. Tandis que quand je vois un corps humain qui est mort, c'est un cadavre. Et Aristote dit, c'est équivoquement un corps humain. Il ne dit pas analogiquement, équivoquement un corps humain. Le cadavre n'est plus un corps humain. Pour le philosophe, et momentanément, parce que est-ce que dans un regard de sagesse au plan philosophique, je ne devrais pas dire que le cadavre reste un corps humain, un corps qui n'est plus vivant, mais qui est toujours humain. Il y a une relation qui reste. Le chrétien le dit, grâce à la résurrection des corps. C'est pour ça que j'ai un respect si grand pour le cadavre. Tandis que si c'est purement équivoquement un corps humain, pourquoi le respect ? Je n'ai qu'à le brûler. L'incinération. Alors je peux faire l'incinération en athée. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et j'aime mieux te voir en poussière. De voir cadavre. C'est plus propre. Il n'y a plus qu'un peu de poussière. Tandis que le cadavre, il s'en mauvais vite. La poussière, non. Dans des pays où on veut la propreté avant tout, la propreté n'implique pas le respect, c'est curieux. On incinère. Il peut y avoir une incinération religieuse, jusqu'où veut le religieux. Si l'Église accepte l'incinération, ça prouve qu'il y a encore une incinération religieuse. Ah, c'est un très gros problème, ça. Et c'est là à propos de la philosophie de la nature et la philosophie du vivant. Le partage des eaux. Le corps humain, quand il est mort, reste encore un corps qui a été vivant. Et il n'est pas réduit tout de suite en poussière. Il le sera. Mais pas tout de suite. Et en poussière, il faut encore voir ce que c'est exactement. Alors, vous voyez le problème, hein, qui est très, très, très difficile à répondre. Et qui se pose, parce que si de fait la nature n'implique pas d'une façon immanente une fin, la nature physique, l'eau, la terre, le feu, les éléments, c'est métaphorique. Je ne connais poétique. Mais je n'aime, ça échappe à la connaissance philosophique. Alors, c'est grâce à l'acte qui est perçu, saisi dans le mouvement que la nature implique la fin et une fin immanente. Vous voyez, c'est par l'acte que je saisis la finalité, parce que l'acte est au-dessus de la forme, il est plus que la forme, même si cet acte est saisi uniquement dans ce qui est mu maintenant. Alors, il y a là quelque chose qui échappe, qui est plus que la forme et que seul le philosophe peut saisir. L'acte du feu. Le feu est capable de tout transformer dans le monde physique. D'où le mythe de Prométhée. Le feu a quelque chose de divin, puisqu'il transforme tout. Et le feu vient des dieux, donc le feu est le lien entre le monde physique et quelque chose qui n'est plus physique. C'est un mythe, hein, le mythe de Prométhée. Mais le mythe de Prométhée est quand même quelque chose d'extrêmement significatif. C'est un mythe, c'est sûr, mais il exprime quelque chose qui va très loin. Le feu est acte du monde physique. Comme la lumière, puisque le feu et la lumière sont toujours liés. Un feu, durant la nuit, illumine le cierge pascal. Vous passez du feu à la lumière. Symbolisme liturgique, mais qui a un fondement dans la réalité. Si la lumière fait l'unité du monde physique, c'est par le feu. C'est pas autrement. Et la lumière est propriété du feu. Et le feu est physique. C'est une réalité physique. C'est pas une réalité métaphorique. Et qu'à vous brûler, vous verrez que c'est pas métaphorique. C'est une réalité physique. Et c'est l'acte du monde physique. Comme c'est curieux de saisir l'acte comme feu. C'est toute la grande philosophie d'Héraclite. Qui est, voyez, la philosophie du mouvement, et c'est pour ça qu'il met le feu au-dessus de tout. Alors, pour lui, il y a un feu visible et un feu invisible. C'est assez beau, du reste. Le feu visible et le feu invisible. C'est les premiers balbutiements, mais c'est une intuition très forte. Et que nous pouvons, par l'analyse, montrer que, en effet, dans le monde physique, il y a réellement un acte et donc une fin. Et cette fin, elle est dans le feu qui est à la fois immanent et transcendant. Et c'est pour ça qu'Héraclite essaie de dire le feu visible et le feu invisible. Il y a une certaine transcendance dans le feu, dans le monde physique. Une certaine transcendance. Qui est toujours lié à l'immanence, parce qu'il n'y a pas un feu séparé, il n'y a pas un feu invisible. Le feu est visible, il est physique, donc il demeure immanent, mais d'une immanence très particulière, parce qu'il réduit tout en poussière. Il faut beaucoup réfléchir sur le feu. Du reste, le symbolisme du feu pour nous est capital, puisque c'est le symbolisme de l'Esprit Saint. Parce qu'il y a dans le feu quelque chose d'unique. Vous voyez, c'est lumière et feu. Et inséparable. au point de vue philosophique. Le feu maintient la finalité. La lumière risque toujours de me maintenir dans la causalité exemplaire. Tandis que le feu fait passer la chose. Donc, il y a l'expérience du feu. Pourquoi le gosse est-il attiré par le feu? Mes visions qui restent comme ça, c'était pendant la guerre. On allait à l'Étiole, à Paris, en bicyclette. Et dans les jours d'hiver où il y avait de la neige, c'était particulièrement sportif. Et je me souviens d'avoir vu dans un paysage de neige, je le vois encore, tout d'un coup, deux petits gosses qui prenaient feu. À 100 mètres de moi. Ils jouaient avec des allumettes. Pourquoi les gosses aiment-ils tellement jouer avec des allumettes? Pourquoi les gosses aiment-ils tellement le feu? Vous voyez, la faim attire. Il y a une attraction de la faim, mais prodigieuse. Ces deux petits gosses prenaient feu. Je me suis précipité le plus vite possible pour être en roulant dans la neige pour arrêter cet incendie. Puis j'ai arrêté tout de suite une voiture. Il y a encore quelques voitures qui passaient pour les conduire tout de suite à l'hôpital. Je n'ai pas su ce que c'était devenu puisque je ne pouvais pas les suivre. Il y avait quelqu'un qui les emmenait. Mais c'est le feu sur la neige. Et ce feu qui... C'est terrible quand on voit des gens qui sont brûlés par le feu. Autre vision du feu. Il y a des visions de feu comme ça qui restent. C'était pendant la guerre, alors là encore. Comme j'avais été que récupéré, j'avais pas fait mon service militaire, j'étais récupéré avec cette pauvre race humaine des récupérés. C'était pas très fameux. Dans le camp d'Avor, on était là, il y avait une chapelle, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres. On disait la messe tous les matins. Bombardé la veille de la Vendôme. Mais si le bombardement qui a commencé à 11h du soir, à 4h, un peu d'accalmie. Alors, je vais vite dire ma messe. En me disant, si je suis bombé, si je dois y passer, il vaut mieux avoir dit sa messe. Hein. Voilà, on meurt dans le viatique. C'est la meilleure des morts. Il n'y avait personne. Personne. J'étais seul. J'ai dit ma messe. Et puis le bombardement a repris. Et a cessé à 11h. Donc de 11h du soir à 11h du matin, je me précipite à la chapelle en voyant qu'est-ce qu'il y en est. Je vois la chapelle en feu. J'essaie d'entrer. Le tabernacle, la porte du tabernacle était encore là. Mais tout était en feu. J'essaie d'entrer. Je fais deux pas dedans. C'est impossible. Je vais être brûlé comme le reste. Alors je suis resté en adorant le Saint-Sacrement et en attendant qu'il brûle. J'ai vu la porte tomber, le ciboire, le feu progressivement, et puis brûlant tout. Parce que je crois que Dieu demandait de rester là.